Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Eric Figuère, Sébastien Baldovini et François-Louis Marie. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, on aura donc du golf avec le PGA Championship, du football avec la dernière journée de Ligue 1 et du tennis avec le Masters 1000 de Rome. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va commencer par le golf, Eric Figuère avec vous et Scottie Scheffler qui n'était pas passé si loin au Masters d'Augusta, mais là, ça y est, il a ajouté cette ligne à son palmarès et c'est son premier grand chelem hors justement Masters.
Hors Masters, voilà, il continue tranquillement sa moisson de tournois et de tournois majeurs en l'occurrence. Deuxième levée du grand chelem. Il avait eu des petits soucis physiques à la fin de l'année, un peu bête. Et puis donc, il a recommencé son année tranquillement. Oh, il est numéro un mondial indiscutable et indiscuté.
Depuis trois ans.
Le golf est ainsi fait que même lorsqu'on est numéro un mondial incontesté, on a finalement des probabilités de gagner qui sont finalement assez faibles. Et on a connu ça. Alors moi, c'était il y a très longtemps avec Jack Nicklaus. On a connu ça plus récemment, là, pour le coup, je l'ai vécu avec Tiger Woods. Et aujourd'hui, ben, on est en train de vivre la même chose avec Scottie Scheffler, qui est... je le reconnais, et puis tu sais que je dis ce que je pense, et c'est pas mon joueur préféré, loin de là. C'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement suivre pendant plusieurs heures, mais il faut reconnaître qu'il est le meilleur. Voilà, il n'y a pas à discuter. Et le meilleur, encore une fois, je me répète, mais le meilleur ne gagne toujours pas ce jeu-là. Et il est passé tout près au Masters, il n'était pas encore assez près. Il y a 15 jours, il gagne son premier tournoi de l'année avec 8 coups d'avance. Voilà, aujourd'hui, il gagne avec 6 coups d'avance.
Ouais,
il y a toujours, effectivement, dans ses parties, des petits moments où il faiblit un peu, où les autres se rapprochent un peu, et puis il choisit tout simplement d'accélérer, il choisit de remettre tout le monde à sa place, et puis, tout le monde, parce que là, on est sur un parcours extrêmement difficile, même s'il y a quand même pas mal de joueurs sous le par, mais c'est vraiment un parcours difficile, très très long, c'est un des plus longs qui existent, ça compte quand même pour scorer bas, et on se rend compte que, ben voilà, lui, il est devant, il est monté doucement, tranquillement dans le tournoi, Et puis à la fin, il écrase tout le monde avec 6 coups d'avance sur les deuxièmes. Donc c'est assez énorme. On se rend pas compte. J'aurais préféré dire ça d'un autre golfeur, en l'occurrence Rory McIlroy, parce qu'ils étaient deux super favoris. Et puis Rory McIlroy, deuxième super favori, est passé au travers. La preuve encore en est que c'est tout sauf facile dans ce sport-là.
McIlroy 47e à plus 3.
Voilà, 47e à plus 3. Il a traversé, à part un deuxième tour qui était correct. Il a traversé le tournoi un peu comme un fantôme. Malheureusement, on espérait le voir à la lutte avec Scottie Scheffler pour cette victoire. Et on se demandait au début de l'année, après sa victoire au Masters, s'il réussirait, puisque maintenant il avait débloqué son compteur dans le Grand Chelem, si justement il n'allait pas pouvoir faire un Grand Chelem calendaire. Bah maintenant, on est tout simplement en train de se dire, est-ce que Scottie Scheffler, lui, ne va pas faire son Grand Chelem en carrière dès cette année, puisqu'il avait 2 Masters, 1 USPGA aujourd'hui, 3 tournois majeurs en 3 ans, et il lui reste donc l'US Open dans un mois et le British dans 2 mois. Donc je ne vois pas, comme à la plus belle époque, et encore que Tiger ne gagnait pas tout, heureusement pour les autres, il en laissait un petit peu. Mais là, il y avait absolument pas de suspense. Il y en a eu un peu dans la partie, parce que Yonram est revenu à égalité à un moment donné, à moins 9, ils étaient tous les deux devant.
C'est ça, c'est le seul qui allait taquiner chez
voilà,
sur ce dernier
tour. Et puis finalement, Yonram a fini dans les fraises, comme tous les autres.
Il a explosé à la fin, effectivement.
Voilà,
le seul qui est resté à sa place.
C'est pas compliqué, Scottie Scheffler, tout le monde craque, et lui ne craque pas. Et au contraire, il avait fait la différence à la fin du troisième tour. Où là aussi, d'ailleurs, Mathieu Pavon, on va parler de lui, l'avait rattrapé. Il était un coup derrière. Et puis
sur la journée de samedi,
et puis Scheffler, je le surnomme comme ça, c'est pas joli.
Scottie Scheffler, on ne le répétera pas.
Voilà, Scottie Scheffler, lui a accéléré, a fait moins 5 sur les 5 derniers trous hier, Et aujourd'hui, ben voilà, il a remis le couvert, il a gagné très facilement.
Donc vous l'avez dit, parcours extrêmement exigeant sur ces 4 jours. On n'est pas sur des gros scores. Hein. D'habitude, on finit des tournois à moins 16 ou entre moins 16 moins 20. On va dire sur 4 jours, ça, sur d'un joueur très régulier. Là, on est à moins 10, moins 11.
Ouais, les tournois majeurs, un petit peu moins quand même, à part le British et même le Masters, effectivement, où les scores sont un petit peu plus bas. Mais on sait que l'USPGA et l'US Open sont des tournois où ça se gagne plus bas. Les parcours sont vraiment et à la fois plus longs et à la fois préparés d'une autre manière. Donc voilà, mais à la fin, le meilleur l'emporte.
Il faut qu'on dise un petit mot, parce que le temps passe vite, sur Mathieu Pavon, 41e à plus 2. Il a explosé complètement sur la journée de dimanche, alors qu'il était, il était à moins 5 sur samedi soir.
Ouais, c'est dommage. Alors il a fait quand même plutôt un mauvais début de saison, pas un très mauvais, mais un mauvais début de saison par rapport à sa saison dernière et à ce qu'on entrevoyait de la saison à venir. Il n'arrivait pas forcément au pic de sa forme, et puis un premier tour un peu tranquille, un très très bon deuxième tour qui l'a placé en dernière partie, et puis forcément la dureté du parcours, la difficulté l'a un petit peu rattrapé, son jeu n'étant pas exactement celui qu'il voudrait. Le quatrième tour effectivement ne s'est pas bien passé, notamment dû à un deuxième trou un peu catastrophique, puisqu'il a fait double bogey, était donc plus 2 après deux trous, et puis ensuite ça a été un peu le calvaire, comme beaucoup d'autres aussi,
hein,
mais ça a été un peu le calvaire. Il a joué plus 7 et il finit 41e, donc c'est, voilà, j'espère que ça va lui permettre de repartir et de reprendre un peu d'élan pour la fin de saison.
Il était malgré tout pas complètement abattu, plutôt satisfait de ses 3 premiers tours d'ailleurs, par rapport à son début de saison, et mais il trouve que son jeu se remet en place.
Oui, mais ça c'est le propre du golfeur d'essayer de toujours voir le positif et donc toujours de penser, et à juste titre, c'est vrai, mais de penser qu'il a encore appris. Voilà, son jeu s'est encore amélioré. Alors c'est vrai que son jeu s'est amélioré par rapport au premier mois de l'année. Maintenant, ben, on va tout simplement voir ce qui va se passer derrière. C'est aussi simple que ça. On a envie que tout ça nous serve à quelque chose, mais après, il faut que ça se traduise dans les faits et en l'occurrence dans les scores.
Un petit mot sur Bryson DeChambeau, placé encore deuxième ex-aequo avec English et Riley à moins 6, donc à 5 coups de Scheffler, qui était déjà placé sur le Masters.
Bien sûr.
Très bon début de saison pour ce qui.
Très bon début de saison. On sait que c'est un joueur absolument formidable. C'est un joueur qui manque d'ailleurs au PGA Tour, parce que c'est un joueur très spectaculaire qu'on a justement lui envie de regarder. Mais comme tous les autres, à l'exception de Scottie Scheffler, ils ont tous des ratés, et c'est tout à fait normal, parce que ce sport est très 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 difficile. Donc forcément, quand on prend des risques, quand on veut attaquer, quand on veut faire des birdies, ma foi, on fait quelques erreurs, surtout sur des parcours aussi difficiles que celui-là. Mais à la fin, voilà, tout le monde joue, et puis c'est Scottie Scheffler qui gagne. C'est devenu une habitude.
Prochaine levée du Grand Chelem, elle arrive très très vite. C'est dans 3 semaines, du 12 au 15 juin à Oakmont en Pennsylvanie. L'US Open.
Très très beau parcours encore, on va encore vivre des moments assez formidables, parce qu'il se passe tellement de choses, le niveau est vraiment exceptionnel, sur un parcours lui aussi exceptionnel, chargé d'histoire, donc on espère que les meilleurs vont pouvoir hausser un petit peu leur niveau de jeu pour qu'il y ait plus de joueurs à la gagne à la fin.
Merci Eric. On va enchaîner avec le football. François Lumarie avec vous. Ça y est, la Ligue 1 a rendu son verdict. C'était la dernière journée ce week-end. On n'avait plus de surprise sur les 3 premières places. On attendait de savoir qui serait 4e. Ça, c'est plutôt entre Lille et Nice. Nice a réglé le problème très très vite et d'une manière qui n'a pas laissé place à la moindre discussion.
Il bien restait une place pour la Conference League ou l'Europa League.
C'est ça, on y viendra après.
Nice a cartonné, c'est un peu une surprise.
6-0 contre Brest.
Ils avaient envie d'aller sur cette Ligue des Champions et tour préliminaire. Hein.
C'est ça.
Il y a beaucoup de sous. Il y a des sous en jeu. Hein. Et puis, voilà, la surprise, c'est Lyon. Lyon qui passe devant Strasbourg, puisque Strasbourg fait un faux pas face au Havre.
On y reviendra aussi.
Mais c'est vrai que sur ce haut de tableau, bien, les places étaient chères et c'était intéressant jusqu'à la fin.
Donc on se retrouve avec les Niçois qui ont battu Brest 6-0. Lille qui s'est difficilement imposée sur Reims, qui prend la 5e place, synonyme d'Europa League pour le coup.
Oui.
On a Lyon qui termine 6e et qui donc jouera la Conference League, sauf si le PSG gagne la Coupe de France, auquel cas ils joueront la Ligue Europa. et Strasbourg qui jouera la Conference League si le PSG gagne la Coupe de France. Sinon, ils ne joueront aucune Coupe d'Europe.
Alors on va c'est en dommage parler. Pour Strasbourg, parce qu'on fait quand même un beau parcours avec une équipe jeune, un nouvel entraîneur, de nouvelles idées.
Et ils ont malheureusement flanché sur les deux dernières journées.
Sur les deux dernières journées.
Deux défaites. Et celle qui fait très très mal, c'est celle alors, qui fait du bien au Havre, mais qui fait très très mal à Strasbourg. C'est ces dernières journées où ils se font cueillir donc, par Strasbourg, on va en parler, qui va chercher son maintien directement, sans passer par la case barrage. Sur un pénalty.
Avec une panenka.
Avec une panenka à la 97e minute.
Énorme.
Donc il fallait avoir un peu de sang-froid pour la mettre.
Il faut la tenter.
Voilà.
Quand on joue son métier,
il fallait avoir un peu de.
Non, il fallait avoir un peu de sang-froid pour la mettre, tout simplement. Et Alioune Touré qui tirait son deuxième pénalty. Jamais facile de tirer deux pénaltys dans le même match.
Non. Il a eu assez de sang-froid, mais aussi beaucoup de lucidité, hein, parce que ce match-là était assez engagé, il y avait de l'intensité, et en fin de match, a réussi à garder son sang-froid avec toute la lucidité qu'il faut. Chapeau à lui, hein, parce qu'il jouait le maintien. Hein.
Alors je pense que si la Panenka il la tente et il la met pas, je pense que le retour au Havre va être difficile. Par contre, aurait été difficile.
Il a dit qu'effectivement, quoi qu'il en soit, même s'il avait raté, il faisait les barrages. Donc pour lui, c'était pas grave.
Enfin, on va en parler, mais
on en aurait reparlé s'il l'avait raté.
Metz n'est pas non plus là pour faire de la figuration.
Metz a fait quand même un bon parcours en Ligue 2. Ça a été difficile pour eux lors des barrages, dernier barrage, ils gagnent que 1-0. Mais c'est une bonne équipe qui a été assez constante toute l'année. Ça va pas être simple pour le barragiste qui est récent.
Un club historique, faut pas l'oublier. Ça veut dire que c'est des clubs qui sont habitués, malheureusement, à descendre, mais aussi très souvent à remonter, avec beaucoup d'histoire. Oui. Et ça peut compter dans certains moments.
Eh bien, justement, il y a une question qu'il faut se poser, hein, parce que là, beaucoup de clubs historiques, notamment Saint-Etienne, Reims, Le Havre, voire Nantes, ils sont maintenant à chaque fois à jouer pour ne pas descendre. Il y a déjà des clubs qui ont disparu. Hein, le Caen et tout ça, ce sont des clubs formateurs. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas su s'adapter face au football moderne, face à ce football business qui est arrivé, où il y a beaucoup de propriétaires? Les grands clubs ont réussi à le faire. Hein. Quand on prend le Barça et Real, ils arrivent à sortir des jeunes de leur Masia. Et ils arrivent à faire des stars et à fournir du beau football.
Mais on voit aussi que dans tous les pays, les clubs qu'on a connus, par exemple dans les années 80-90, on en voit certains descendre en série B, en série C, en Italie par exemple. Parme était descendu, la Sampdoria de Gênes était descendue très loin. Et qui disparaissent. Donc on parlait de quand c'est...
Bordeaux.
On va
Bordeaux,
voir.
Bordeaux. Voilà. Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter? Parce que le football a vraiment changé.
Et c'est pas qu'une histoire d'argent. Parce que
c'est pas fini, parce que la DNCG là, va rentrer en ligne de compte. Et je pense qu'on va avoir des surprises.
A quand même un investisseur qui s'appelle Kylian Mbappé, donc un peu d'argent.
Oui, mais avoir de l'argent ne veut pas dire être bien géré.
C'est
un vrai problème.
C'est de structurer les clubs.
C'est la structuration. Parce que sur la Ligue 1, si tu enlèves, par exemple, tu enlèves à l'heure actuelle, tu enlèves Paris, tu enlèves l'OM, ça fait une masse d'argent qui n'arrive pas sur la Ligue 1. En termes de notamment de médias et de communication,
C'est sûr que les droits télé sont
énormes.
On en revient à l'attractivité de la Ligue 1, effectivement, qui pose problème. Des droits à télé pas assez importants par rapport aux championnats voisins que sont espagnols et surtout anglais et même allemands, puisqu'on voit que l'Allemagne a toujours des stades. Alors les stades sont assez pleins quand même en France, hein, finalement, mais bien loin de l'Allemagne, par exemple. Donc il y a un vrai souci économique, un vrai souci...
On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Voilà. Et pourtant il y a une bonne formation. Parce que
et il y a une bonne formation, parce qu'il y a
toujours des jeunes joueurs français qui sont attirés par les clubs étrangers.
On a aujourd'hui, alors on ne va pas faire le débat là, parce que ce n'est pas l'objet, mais une fiscalité qui ne joue pas en la faveur des clubs de Ligue 1, enfin des clubs pro de manière générale. Mais en tout cas, effectivement, il y a un vrai sujet. On va revenir juste sur le terrain, messieurs, si vous le voulez bien. C'est donc Reims qui fait la mauvaise opération. De se retrouver barragiste.
Toi qui es parisien, ça t'arrange. Tu joues samedi. Et Reims joue mercredi.
Reims va effectivement enchaîner la finale de la Coupe de France au milieu de
trois
matchs en une semaine.
Bon, même sans ça.
Tu choisis quoi? Tu choisis le maintien en Ligue 1 ou tu choisis la Coupe de France?
Je pense qu'ils vont choisir le maintien en Ligue 1.
Ça c'est nous, moi aussi. J'aurais choisi le maintien.
Surtout qu'ils n'ont aucune chance.
On vient de parler d'économie, messieurs.
Ils n'ont pas beaucoup de chance de gagner face au Paris Saint-Germain.
On vient de parler de l'économie du football. Oui. L'économie du football, elle passe par la Ligue 1. Hein. Si vous êtes en Ligue 2, la masse salariale, tout
ouais, budget, sauf qu'on ne participe pas à une finale de Coupe de France juste pour. Donc, bien évidemment, qu'il préférerait sans aucun doute.
Sauf que là, le calendrier, mais... les desserts, pour le coup.
Ouais, mais ils seront obligés de jouer sur les deux tableaux.
Après,
mais...
c'est des athlètes de haut niveau. Hein.
Oui, oui.
En Angleterre, ils enchaînent 3 matchs par semaine.
Oui, ils peuvent le faire. Alors là, c'est vrai qu'on est en fin de saison.
Ils ont l'effectif pour cela, ils ont l'habitude. Mais là, Reims qui monte, c'est la première fois qu'ils vont jouer 3 matchs. Même pas, ils ont joué aussi ce week-end.
Ils auront les vacances pour se reposer.
Ça va être compliqué.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison de Ligue 1 maintenant qu'elle est terminée, François Lumary ?
Pas trop de surprises. Paris Saint-Germain est encore devant. Les autres clubs ont des progrès à faire parce que ce n'est pas que Paris et l'argent, comme on le disait. Parce que même si Paris est devant, mais Paris a quand même 19 points d'avance. C'est énorme. C'est énorme. Et quand je regarde Montpellier, qui est le dernier, n'a que 16 points.
C'est ça.
Donc les clubs doivent progresser dans un autre domaine pour pouvoir rivaliser avec Paris Saint-Germain et pas qu'au niveau de l'argent, parce que les autres clubs entre eux perdent beaucoup trop de matchs.
C'est maintenant, pour ça qu'il y a autant d'écart.
Et pour ça,
19 points, ils sont là.
Il y a autant d'écart.
On prend l'exemple du PSG qui a 2 défaites sur la saison et ces 2 défaites sont arrivées tardivement là, au moment où je pense qu'ils ont géré aussi leur effectif par rapport à la Ligue des Champions. Marseille, Monaco qui suivent ont 9 défaites.
9 défaites.
Comme disait Abibet, excuse-moi de te couper, les clubs ne jouent que 2 fois contre le Paris Saint-Germain.
Ils
peuvent perdre éventuellement 6 points. Donc la différence, elle est où ? Elle est justement dans toutes ces confrontations avec les clubs plus faibles, entre les clubs prétendants. Et là, il y a beaucoup trop d'écart.
On l'a bien vu sur cette dernière journée, parce que Monaco s'incline à Lens 3e, Monaco 3e, à Lens 4-0. Donc,
c'est énorme. Et puis la petite déception, c'est encore Saint-Étienne, parce qu'on a des amis qui sont des Stéphanois des années 75, 76, 77, 78. Et c'est dommage que Saint-Étienne, encore là, une fois... Et là, comme le disait Eric, c'est pas une question d'argent, c'est une question de structuration. Ça fait des années, comme Bordeaux, ça fait des années qu'il y a des dirigeants.
Ça fait trop longtemps.
Quelle politique sportive ils mettent en place.
Ouais, ça fait des années que le club, il cherche à vendre aussi, voilà. ils n'y arrivent pas. Et donc tout ça ne permet pas une évolution.
Trop longtemps qu'ils font un petit peu, pas la une en tous les cas, mais et qu'on parle d'eux autrement que sportivement. Et ça, forcément, à un moment donné, ça coûte.
Allez, mais si on va enchaîner avec du tennis, puisque le temps passe très très vite ce soir. Sébastien Badovini, le Masters 1000 de Rome s'est terminé ce matin, et Carlos Alcaraz n'a laissé aucune chance à Jannik Sinner, 7-6, 6-1.
Oui, c'était propre, comme on dit dans le jargon.
J'avais misé sur Sinner. Hein.
Sinner, il n'était pas trop en forme. Il dit qu'il avait des petites ampoules aussi sous les pieds, mais bon, il a quand même été honnête en disant que c'est pas ça qui a tout fait.
Et il a d'ailleurs dit sur le court que Alcaraz était le meilleur joueur du monde sur terre battue.
Oui, je pense que là, il a montré que, en plus, alors je sais pas si c'est son écarteur de nez ou pas, mais il a une couverture.
Ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu d'ailleurs.
Oui. Et celui-là, en plus, c'est celui avec les aimants qui écarte encore plus. Mais non, c'est vrai qu'il a une couverture de terrain et surtout, il se bagarre.
Il lâche pas un point.
Hein. Il lâche rien. Sinner a bien joué parce que dans le premier, ils sont de mano à mano jusqu'au tie-break. Et après, le fait d'avoir gagné le premier set, je pense qu'Alcaraz, il se relâche. Et puis, il y va. Puis, à chaque fois qu'Alcaraz a joué une finale, il n'a jamais perdu. Donc... ça va être un bon client dans 15 jours.
C'était ma question. C'est forcément le grand favori pour Roland-Garros.
C'est le grand favori, mais après...
Prenant du titre, hein, on le rappelle.
Oui. Après, on sait que Roland-Garros, c'est 2 semaines, c'est 3 sets. C'est que s'il pleut ou qu'il fasse beau, la terre, ça ne peut pas être la même. Qu'il faut avoir un bon tableau. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y en a qui tiennent que 2 matchs, mais il ne faut pas les jouer au premier tour.
Bon, il va repasser tête de série numéro 2, je pense, puisque Zverev, qui était tenant du titre sur ce Masters 1000 de Rome, a perdu beaucoup de points. Donc, je pense qu'au tirage au sort, Alcaraz sera tête de série 2. Donc, Sinner en haut, Alcaraz en bas.
Ça serait bien, mais bon, entre, il peut toujours avoir des personnes qui peuvent un petit peu...
Il a encore quelques petits trous d'air quand même, Alcaraz, encore un petit peu.
Oui, parce qu'il peut... Des fois, il a des matchs, il est pas dedans, et il suffit de jouer quelqu'un qui lui, est dedans, et puis ça tourne vite. Hein.
L'avantage du 5-7, justement, ou du 3-7 gagnant, c'est que ça peut, justement, il peut passer à côté de 7 et bon, se réveiller avec une supériorité quand même, mais...
Mais on laisse des plumes pour le tour d'après.
Le gros souci, c'est que quand on veut aller au bout sur un grand chelem, il ne faut pas trop laisser de plumes avant, et parce qu'on sait qu'à partir des quarts ou des demi, ça va être très très serré.
Il faut faire une première semaine
propre.
Semaine
propre. Si on commence par un 5-7 au premier tour,
et je pense que Sinner, après 3 semaines, avec 2 semaines supplémentaires, sera quand même à l'arrivée, au moins en finale.
Oui, puis après, il y a le fait qu'il n'a pas joué, donc depuis 3 mois, donc c'est quelque chose, revenir sur Terre, en plus à Rome chez lui, qui est un grand tournoi, parce que On a vu que c'était un grand tournoi parce que les meilleurs ne sont pas allés jusqu'au bout.
Zverev.
On a des Français qui ont fait un super tournoi. Moutet a fait un...
Moutet fait un bon tournoi.
En plus, il perd sur Paul, je crois, en 3-7.
Il perd sur Tommy Paul, absolument.
En 3-7. Ce qui est Paul, on sait qu'il fait que des demi pour le début à Barcelone, un peu à Monte-Carlo et tout, qui est en forme. Donc Moutet, bon, après sur des masters comme ça en 2-7, il est bien parce que c'est quand même un jeu où il prend, comme on dit dans le jargon, beaucoup d'essence. Donc sur un 5-7, après il est vite fatigué. Mais voilà, on a aussi Arthur Fils qui a fait un bon petit tournoi parce qu'il n'avait pas un tableau très très bien. Il prend Tsitsipas, je crois, au premier tour.
Exactement.
Et il arrive à s'en sortir, c'est quand même pas mal parce que...
En 3-7.
Ouais, 3-7, c'était bien. Et puis bon, après il tombe...
Il perd sur Zverev.
Ouais, Zverev, c'est un client quand même sur terre. Et de pas... Après, ça se joue à chaque fois. Voilà, quand on voit maintenant, les échanges sont quand même beaucoup plus denses qu'avant. Sur tous les tours, avant, jusqu'en quart, on va dire que les têtes de série étaient un petit peu tranquilles. Et maintenant, ça bataille bien. Donc après, je ne sais pas si c'est un effet balle, un effet terre, mais c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus ralenti, puis ils sont de plus en plus préparés. Hein. Là, on en parlait tout à l'heure, au Calife qui commence ce soir à Roland, on a quand même Manarino qui était il n'y a pas si longtemps
dans le
top 100.
Il a démarré l'année dans le top 100.
Qui a complètement quitté et qui ne gagne plus trop de matchs. On va avoir des Cilic, des Kukurmin, là... Donc il y a des, même dans les qualifs sur les premiers tours, je pense que ça va être quand même un peu compliqué.
Un petit mot sur Zverev parce que c'était le tenant du titre, il a disparu dès les quarts de finale, il est éliminé par Musetti.
Oui, après Musetti, il contre Alcaraz, ça a été très très chaud. Alcaraz, il s'en est sorti parce que Musetti se plaignait du vent. Mais peut-être que Musetti peut passer Alcaraz. Donc Musetti est en bonne forme.
Donc Musetti et Zverev, outsider pour Roland.
Oui, puis il y en a après.
Il y a plein d'autres. Drapeur.
J'allais vous dire, peut faire.
Pas outsider chose. Pour gagner.
Paul, il se montrer. Il a montré que Paul, là, depuis le début de la tournée, il est présent. Après, ouais, voilà, on verra leur forme. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a toujours pas de Français à mettre les outsiders. Mais
Arthur Fils peut pas jouer ce rôle.
Non, je pense pas parce que, enfin, personnellement, je trouve qu'il s'énerve trop vite et qu'il sort trop vite des matchs. Et il a un classement qui fait que 8e, c'est beau. Hein. S'il fait 8e à Roland, c'est beau.
C'est tout ce qu'on peut espérer, voilà. Même si on espère mieux pour lui. Mais
un petit mot sur Casper Ruud.
Alors Casper Ruud,
qui est l'éternel outsider, mais qui s'est fait exploser, excusez-moi du terme, sur Sinner, 0 et 1 en quart de finale.
C'est quand on voit que Casper Ruud, il doit être 4 ou 5 mondial.
Exactement, 5e mondial.
1 et 0, 5 mondial, je peux
très
vous dire.
Très sympa d'ailleurs son attitude après la balle de match.
Ah bah oui,
il
n'est pas
bien rejoindre au filet. Donc, c'était très sympa malgré tout, enfin, du dur pour lui.
C'est
mais...
plutôt des scores qu'on ne voit, enfin, qu'on voit pas sur deux grands comme ça, mais bon. Je crois qu'il est vraiment...
Bon, il y a une année difficile.
Ouais, il n'est plus du tout en confiance. Pourtant, dans l'échange, il est là, mais il ne fait pas mal.
C'est ça. Il n'y a pas de coup, pas de coup fort.
Ouais, il ne fait pas du tout mal, mais il est là. Il est quand même là. Donc, sans méfier, parce que c'est des gens qui essayent de trouver... Ils sont au creux de la vague, là, et qui essayent de trouver leur jeu. Et à Roland... Il suffit de le remettre un petit peu dans le circuit pour qu'il fasse mal. Hein.
Ancien double finaliste. Hein, donc
ben oui, c'est pour
non
ça.
Plus,
ouais.
Non plus l'enterrer. Un petit mot sur deux joueurs français, Hugo Humbert et Giovanni Mpetit-Péricard, qu'on a très peu vu sur cette saison sur Terre.
Oui, pour moi, Giovanni, il est peut-être trop monté vite au classement. Et là, il est en train de se trouver parce que, comme on disait tout à l'heure, il a gagné un Challenger.
Il a gagné 275 de Primrose à Bordeaux, effectivement.
Mais après, dans les Masters 1000 ou 500, puisqu'il a ce classement-là, il passe pas un tour. Il va apprendre, hein, il est jeune.
Et Hugo Humbert.
Et Hugo Humbert, c'est dommage qu'il soit blessé à son bras droit. Mais moi, j'aimais bien son début de saison. Et j'espère qu'il sera remis, mais je crois qu'il est encore blessé puisqu'il joue blessé. Et donc c'est vrai que c'est très délicat à jeter la balle. Et comme on sait que lui, le service, c'est un grand atout. C'est un peu...
Et favori chez les femmes pour Roland Garros cette année.
Effectivement, on va dire un petit mot très vite sur le tableau dames.
Et là, on a vu qu'il y avait Paolini qui était quand même pas mal. Là. Elle revient.
Finaliste de l'an dernier.
Et là, elle vient de faire le doublé à Rome. Donc... Donc elle est bien. Bon, après, il y a toujours...
Sabalenka.
Sabalenka, mais sur Terre, on sait que ça avance
peu,
pas trop.
Un peu plus compliqué. Ouais. Coco Gauff qui peut être
Coco Gauff qui, là, en candidat ce moment, au titre. Ouais. Chez les femmes, comme on en parlait la dernière fois, c'est beaucoup plus ouvert. Ça veut dire que c'est celle qui aura, voilà, qui va moins s'essouffler au début et qui va avoir de la réussite, parce que les femmes sont quand même beaucoup... je trouve que ça tente beaucoup plus que les garçons. Et voilà. Mais après, sinon, on a des noms qui peuvent aller... Elle reste toujours sur 2-7, donc pour elle, tous les tournois de l'année sont les mêmes. Donc
la vraie interrogation, c'est Iga Świątek qui gagne plus beaucoup de matchs là, depuis le début de la saison, qui perd régulièrement en demi. Mais c'est un grand chelem, et c'est son grand chelem, puisqu'elle l'a gagné 4 fois déjà.
Après, il y a beaucoup l'affectif qui tombe, et par contre, on sait qu'à ce Roland-Garros, ça sera les adieux de Richard Gasquet, donc j'espère qu'il fera comme Tsonga et son compatriote
Gilles Simon
qui avait fait des super matchs pour le public. J'espère qu'il sortira par la grande porte parce que c'est un grand monsieur.
On peut espérer peut-être un tirage au sort un peu favorable pour avoir la chance de le voir au deuxième tour.
Ouais, il a une wild card, malheureusement il ne va pas être protégé, donc mais ça peut être j'espère qu'il sortira
Vous l'avez dit, Roland Garros, ça commence ce soir. C'est ce qu'on appelle désormais l'opening week. C'est la semaine des qualifications. Et puis le tournoi, la quinzaine, comme on le dit, commencera donc la semaine prochaine. On va donc suivre ça avec beaucoup d'attention. Et on va encore donc être très fatigué avec les décalages horaires. Mais si on va écouter une page de pub et on se retrouve juste après pour les brèves de l'actualité.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Jusqu'au 25 mai, célébrons la fête des mères comme il se doit. Craquez pour notre rosier Meillan à 2 990 francs seulement. Fleurs, senteurs, bien-être, déco. Vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Jardiland, Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Marlène Alma, Païta et Port Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile. Marlène, le seul plaisir d'offrir.
RRB, il est 17h33, on retrouve tout de suite la deuxième partie d'une semaine formidable avec Olivier Laudin et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, on retrouve nos trois invités pour la fin de cette émission. On va commencer donc les brèves avec de la Formule 1. Victoire de Max Verstappen au Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola devant les deux McLaren de Norris et Piastri. Messieurs, un commentaire là-dessus, Eric.
Grosse victoire.
Ouais, il a été fort.
Grosse victoire, il est vraiment très très fort.
Dessus, hein.
Il a une voiture aujourd'hui qui est pas la meilleure, enfin qui n'est pas moins bonne que les McLaren, mais qui est au moins aussi bonne que les McLaren. Et il montre assez régulièrement que, voilà, là il a fait un dépassement dans le premier... Dans le premier tour, qui était assez fabuleux. Donc, c'est le spectacle qu'on a envie de voir en F1. Malheureusement, il y a toujours des safety cars qui rentrent en compte. Il y a toujours, voilà, c'est difficile aujourd'hui de vraiment, vraiment apprécier ce qu'on aime, parce qu'on aime la Formule 1. Mais il y a tellement d'arrêts, il y a tellement de safety cars qui rentrent et qui empêchent, les arrêts au stand, celui qui le rate, qui repart, etc.
Mais une sacrée équipe, hein.
Encore une fois, une très grande déception, c'est Ferrari.
Alors, j'allais y venir justement, malgré tout, quatrième Hamilton, sixième pour Leclerc, c'est presque ce qu'ils pouvaient espérer de mieux au vu du déroulement du week-end. Ils étaient 11 et 12 sur les qualifs, donc ils étaient très 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 loin. Donc finir quatrième au pied du podium pour Hamilton et sixième pour Leclerc, c'est presque une bonne nouvelle pour Ferrari.
C'est une bonne nouvelle, mais bon, voilà, ils étaient...
Pour la marque, c'est un peu...
C'est triste.
Dans le dur, au niveau mécanique.
Ils n'y arrivent pas. Et puis les stratégies Et souvent, ils passent à côté de la stratégie. Il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Les qualifs ne se passent pas bien du tout. Donc, il y a clairement un déficit de compétitivité, de performance, c'est clair.
Et ils perdent en termes d'image, hein. Parce que là, pour l'investissement qu'ils mettent là-dessus...
Ouais, alors Ferrari reste Ferrari. C'est vrai que c'est toujours... la preuve, c'est qu'on continue à en parler. Ouais,
c'est d'autant plus difficile qu'ils ont recruté un septuple champion du monde. Donc le but, c'était bien de remettre le cheval cabré au cœur du jeu. Mais là, le cheval cabré,
il cabre.
Pour l'instant, il cabre un peu trop, a priori.
Ouais, il conduit une charrette. on exagère forcément en disant ça, et c'est forcément désagréable de le dire d'une Ferrari, mais il faut reconnaître qu'ils sont trop loin, et cette fois champion du monde ou pas...
Oui, si, on n'a pas le bon...
Il n'y a pas de miracle, et puis il a un très très bon coéquipier, Charles Leclerc et tout, sauf un Fermaloir, et les deux, les résultats le montrent, n'y arrivent pas.
Un petit mot sur nos Français. Pardon, Hadjar 9e, Gasly 13e. Hadjar dans les points.
Ah, je pense qu'Hadjar va faire quelque chose dans ce monde impitoyable qui est la Formule 1. Et déjà l'année prochaine, je pense qu'il va changer l'écurie.
Il est en progrès.
C'est quasiment sûr. Et là, il y a gros potentiel et gros mental compétiteur.
Parce que faire le score qu'il fait avec la voiture qu'il a.
En n'oubliant pas que son premier Grand Prix, il s'est crashé avant même que ça ait commencé. Donc il fallait se remettre de ça. Et là, respect.
Et effectivement, il a l'air d'apprendre très très vite. Au championnat du monde, on a Verstappen qui donc se rapproche des deux pilotes McLaren. Il a 124 points, Norris a 133, Piastri 146. Donc les prochains Grands Prix vont être palpitants parce que je pense que le titre va se jouer entre ces trois pilotes.
Ouais, au moins, on aura du spectacle jusqu'à la fin. Ouais, c'est génial.
Ça va être bien ça.
Messieurs, un petit mot de rugby maintenant et une défaite surprise du Stade Toulousain qui s'incline à domicile contre le Racing. Qu'est-ce qu'il veut commenter cette
C'est un peu inquiétant.
Inquiétant. Ça fait quand même quelques semaines qu'on dit que finalement Toulouse, à chaque fois qu'ils sont en réaction, ils se réveillent. C'est vrai que ça fait peut-être une défaite supplémentaire qui fait beaucoup.
Ça commence à faire beaucoup et je pense qu'elle va peut-être laisser des traces.
Et c'est un beau championnat quand même. Hein.
Ça relance, ça n'enlève rien.
Non, mais perdre chez soi contre le Racing, qui est quand même pas dans sa meilleure forme de l'année, c'est très embêtant. Voilà. Alors, il peut y avoir des circonstances, bien évidemment.
Dupont leur manque aussi. Hein.
Oui.
Ouais, mais on dit quasiment ici toutes les semaines qu'ils ont deux, voire trois équipes très compétitives. Et là, peut-être que la mécanique est un peu cassée.
Mais après, enchaîner les championnats, les Coupes d'Europe, les équipes de France, parce qu'ils mettent quand même beaucoup de joueurs dans les équipes de France, ça commence à fatiguer. Hein. Après, c'est quand même un sport où c'est assez violent.
Oui, puis la constance devant au plus haut niveau, puis, on sait que c'est ce qui reste le plus difficile aussi, même pour Toulouse. Hein.
Parce que le Racing a très bien joué quand même.
Le Racing fait un très très bon match, absolument.
Oui. Même les équipes du bas, Malais, qui pourrait dire qu'il va descendre. Là.
Alors justement, on va y venir, parce qu'on va attendre encore un peu pour...
ça me fait de la peine. Mais...
On va attendre encore un peu, messieurs, pour parler du haut de tableau, mais on va enchaîner sur le bas de tableau, effectivement, puisque vous êtes déjà parti dessus, mais Perpignan a fait la mauvaise opération de cette journée. En s'inclinant 31-13 à Clermont, alors que le Stade français est allé arracher une victoire assez inespérée contre Lyon 31-30.
Plus qu'inespérée.
Il se retrouve donc un point devant Perpignan.
Le calendrier n'était pas favorable à Perpignan sur les trois derniers matchs. Clairement, ils finiront à Toulouse dernier match. Donc ça va être très difficile. Bon, Van n'arrive pas à gagner lui aussi
mais
n'est pas si loin. Donc ça peut quand même basculer.
Il reste combien de journées ?
Deux journées. Donc 10 points si on prend deux victoires bonifiées.
Oui, là, il faut que du bonifié, là, pour...
Oui.
Sinon, c'est...
Oui.
Donc voilà, ça va jouer. Et alors, après, c'est la grande inconnue sur la sixième place, on va dire, parce que La Rochelle, par le biais de sa victoire ce matin, large victoire contre Montpellier, 47-18, se retrouve presque assurée, alors même si rien n'est fait mathématiquement, mais de cette cinquième place. En revanche, sur la sixième place, on a Castres à 54 points et on descend jusqu'à la onzième place avec Lyon à 50 points. On a sept clubs qui pourraient prétendre à la sixième place. C'est quand même assez incroyable.
C'est loin d'être joué. C'est très loin d'être joué. Et les équipes du bas créent la surprise là sur les dernières journées. Donc sur les deux dernières journées, je pense qu'il y aura encore des surprises. Hein.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On rappelle que les deux premiers sont qualifiés directement pour les demi-finales et que du coup, l'UBB Bordeaux-Bègles a fait un grand pas vers la deuxième place, puisque Toulon, on ne l'a pas dit, mais Toulon s'est incliné à Pau 25-21. Et qu'après, les quatre places suivantes, donc entre la troisième et la sixième, vont être très, très, très disputées, même si aujourd'hui Toulon, Bayonne sont quasiment assurés d'être dans les quatre clubs-là et que les deux dernières places vont jouer avec un ballottage favorable pour La Rochelle pour l'instant. Un petit dernier mot de football, messieurs. Le championnat d'Italie n'a toujours pas, lui, livré son verdict. Ce matin, ni le Napoli ni l'Inter n'ont pu s'imposer à domicile. On fait match nul tous les deux. Et donc, tout se jouera la semaine prochaine.
C'est bon pour le PSG, ça.
Encore bon pour le PSG.
Écoutez, si c'est pas un signe de plus.
Oui.
Bon, c'est gagné, allez, c'est gagné.
Non, oh là là, là, là,
là, là, là, là, là, là. Ah, je mets un peu la pression sur Paris, c'est normal.
Je vous rappelle que cette émission est enregistrée, on écoutera donc le podcast et on gardera bien sûr cette phrase d'Éric Figuère. Mais en tout cas, on souhaite tous évidemment que le PSG s'impose.
Je pense pour le coup que c'est la pire équipe qu'il pouvait avoir en finale, l'Inter Milan, même si ils ont du mal à finir le boulot et j'ai peur qu'ils ne le finissent pas et que Naples finisse pas à l'emporter. Mais ça reste vraiment une équipe ultra difficile à jouer. C'est le pire. Moi, j'aurais préféré à titre personnel que Barcelone soit en finale, bien évidemment.
Moins difficile à jouer.
Et il y aurait eu un spectacle formidable, mais là, l'Inter est waouh.
L'Inter est compliqué à jouer. Wow. Et donc, le Napoli, on le rappelle, a un point d'avance au classement. Sébastien, vous voulez dire un dernier mot ?
Non, j'allais dire qu'il y a un Parisien qui va pouvoir peut-être gagner deux championnats.
C'est oui, bien sûr.
Ouais. Puisqu'il était au Napoli et début de saison, et là, il est à.
Ce serait extraordinaire.
Ouais. Donc, surtout s'il fait la Champions League derrière.
Ouais, s'il fait le grand chelem. Wow. Je pense qu'il aura fait la saison de sa carrière. Mais si on va terminer par vos coups de cœur, Éric Figuère, on va commencer par vous.
Alors très rapidement, un coup de cœur, mais qui j'espère le sera encore plus la semaine prochaine, puisque l'équipe de Tina est en France pour jouer le championnat de France par équipe 3e division. Ils sont actuellement en pleine préparation et commenceront jeudi. Donc j'espère qu'on pourra en reparler avec une très bonne nouvelle. C'est aussi un gros coup de cœur pour la montée en 2e division. Mais le coup de cœur cette fois-ci, c'est comme par hasard un golfeur. C'est un golfeur australien qui s'appelle Adam Scott, qui aujourd'hui est quadragénaire, mais qui surtout vient de jouer son 96e tournoi majeur consécutif depuis 2001. Et moi, j'aime bien, comme nous tous, hein, autour de la table, on aime bien les champions, on aime bien les grands champions. Mais moi, j'aime encore plus les grands champions qui durent dans le temps. Et ça, c'est alors le golf le permet de durer au moins aussi longtemps que ça. Mais je trouve ça complètement fabuleux, extraordinaire. 96e tournoi majeur à raison de 4 par an depuis 2001. Alors c'est pas encore le recordman, il y a encore deux joueurs devant lui, mais c'est juste fabuleux. Et il a été en plus, si ce n'est à la gagne, en tous les cas, il a joué les premiers rôles puisqu'il fait un top 10. Donc c'est juste fabuleux. Bravo à lui, Adam Scott, australien.
C'est votre coup de cœur, Sébastien Malomini.
Alors moi, c'est très rare, mais je vais partir du côté de la moto. C'est Johan Zarco. Alors moi, je voudrais vraiment... Alors c'était évidemment
la semaine dernière,
mais il remporte quand même déjà le Grand Prix de France. Ça faisait longtemps.
71 ans.
Et l'année dernière, on l'avait déjà enterré, puisqu'on disait qu'il était en retraite, qu'il roulait pas bien. C'est vrai qu'il roulait...
Il n'a pas la meilleure moto du plateau,
non.
C'est une certitude.
Et il met quand même 25 secondes ou 30 secondes
sous la pluie.
À Marc Marquez.
Ça a quand même beaucoup rabattu les cartes.
On va dire
ce qu'il a fait
tout
exceptionnel.
Enfin voilà.
Ok, c'est votre coup de cœur. François Lumari, vous avez le mot de la fin.
Je vais revenir au foot. Je vais aller sur le golf, mais je vais aller sur le foot parce que ce qui m'a marqué, c'est ce côté humaniste de ce match de l'OM où à la dernière minute, Mandanda rentre. Et dans le milieu du foot où il y a beaucoup d'argent. Pour une fois, on est resté un peu humaniste et Bey a laissé Mandanda rentrer sur cette dernière minute. Et puis, il y avait beaucoup d'émotions là-dessus, notamment avec le public, mais pour lui aussi. Donc, c'est une bonne chose. Ça montre que parfois, on peut être un peu humain dans ce monde d'argent et c'est une bonne chose.
On le voit souvent ailleurs et on le voit moins en France. Et c'est d'autant plus à signaler. Tu as raison.
Exactement. C'était une des très, très belles images de ce week-end, de cette journée de Ligue 1. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine Sportmidable.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.